cours d'éthique par le Père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jodard le 6 octobre 1994.
La dernière fois, le cours d'éthique, en vous rappelant que l'éthique étudie l'homme dans son retour ou dans sa découverte plus exactement de ce qui est son bonheur.
Ça devient un bien urgent. Ventre affamé n'a pas d'oreille. Le petit
décidé d'en tuer un pour que les autres puissent survivre. Un grave problème. Est-ce qu'ils avaient le droit de faire ça, hein? Cinq personnes perdues, complètement perdues. Ayant voyagé pendant 3-4 jours, 5 jours, 6 jours. Un petit conseil. Est-ce qu'on va tous mourir en même temps? Affamé, furax. Où est-ce qu'on va en tuer un? Et je vous affirme, c'est arrivé, c'est pas des choses lointaines et des mythes, non, on comprend très bien que ça va arriver. C'est un retire au sort, et le sort tombe sur le plus jeune. Parce que du reste, c'était la meilleure chair. Mais oui, c'est ça, un problème. Situation limite de l'homme. Enfin, ça, doit-il égorger son voisin? Ou bien comprendre? Non, non, j'ai pas le droit. J'ai pas le droit de tuer mon ami, j'ai pas le droit de tuer mon camarade, j'ai pas le droit de tuer un homme pour me sauver. J'ai pas le droit de faire ça. Acceptons de mourir tous ensemble. En implorant Dieu, en le suppliant, si on croit en Dieu. Je constate très vite qu'il y a des biens relatifs à d'autres biens. Je me nourris pour ma santé. Je mange un peu plus si je sens que je suis faible. Je mange en fonction de ma santé, en fonction de mon devoir. Le petit déjeuner du matin, en fonction de tenir bon la matinée. C'est comme ça. Je ne mange pas le matin pour toute la journée. Non. Même si c'est meilleur qu'à midi. Non. Ça, c'est des petits raisonnements de gourmet. Le matin, c'est parfait, c'est merveilleux. Alors, toute la journée, il passe. Puis à midi, je mange très peu. Et le soir, encore moins. Puis j'attends le petit déjeuner du matin. Puis je fais des réserves là, pour toute la matinée. Et pour toute la journée. Non, ce n'est pas raisonnable. Mais réfléchissez sur votre conscience, des appétits naturels. Ça. Et on doit comprendre que c'est en vue de la santé, en vue du devoir d'État. Je mange pour accomplir mon devoir d'État, c'est-à-dire pouvoir travailler. Si à partir de 9h j'ai mal à la tête et je peux plus suivre le cours, ça va pas. Si à partir de 10h ou 10h30 j'ai mal à la tête et je peux plus assister à la messe, ça va pas. Alors, je dois tenir la matinée. Ventre affamé n'a pas d'oreille. À partir de quelle heure votre ventre affamé n'a plus d'oreille? N'écoute plus le Saint-Esprit, n'écoute plus le cours qu'on donne, n'écoute plus les besoins de mon voisin. Je suis tout entier dans mes pieds qui ont froid. C'est pas arrivé, ça. Je perds complètement le sens de quelques réalités. Il faut être conscient, on doit se gouverner soi-même. Et je vois qu'il y a des biens qui sont relatifs à d'autres. Et au contraire, des biens qui ne peuvent pas être relatifs à d'autres. Qui s'imposent comme un bien absolu. Quel est ce premier bien qui s'impose à moi d'une façon absolue? Vous voyez, petite réflexion critique avant de commencer. Avant de commencer la recherche. C'est ce que fait Aristote, du reste. Il fait ça et il a raison. Et on peut le faire, nous, pour nous. Il dit, quel est le bien qui peut me finaliser? Est-ce que c'est la nourriture? Est-ce que c'est le sommeil? Est-ce que c'est la gloire? Est-ce que c'est le travail? Non. Tous ces biens sont relatifs. Quel est le premier bien qui ne peut pas être relativisé à un autre bien? Et donc, qui s'impose à moi comme un certain absolu? Oui, première petite enquête, ça on peut tous faire cette petite enquête. fais des vitraux. Mon absolu, c'est les vitraux. Je fais un vitrail. Après, je pourrais mourir. Si je fais cette enquête, et je dois la faire, elle est première, puisque c'est l'expérience. Je vois que le premier bien qui s'impose à moi comme un absolu, c'est l'amour d'amitié. Aimer quelqu'un comme un ami, c'est le respecter comme une personne humaine. Je ne peux pas relativiser l'amour d'amitié. Je peux avoir plusieurs amis.
Consiste tout ça.
avant la philosophie, c'est tout simplement déblayer le terrain pour comprendre qu'il y a un bien que j'expérimente et qui s'impose à moi comme une fin. Si je n'ai pas cette expérience, je ne peux pas faire une philosophie éthique. Pourquoi ? Parce que l'acte humain n'est véritablement un acte humain que lorsqu'il est finalisé. Lorsqu'il me donne le bonheur. Mais l'éthique est toujours la vie, l'éthique du bonheur. Ça ne peut pas être autrement. C'est-à-dire, si vous voulez très bien ne pas employer bonheur, vous pouvez dire de l'épanouissement plénier qui est en moi, ce qui revient exactement au même. Mais je sais bien qu'il y a des personnes qui n'aiment pas qu'on dise le bonheur. Il y a tellement de mal dans le monde aujourd'hui. Oui, mais chacun d'entre nous, nous essayons le développement le plus complet de ce que nous sommes. C'est ça le bonheur. Vous n'êtes heureux que quand il y a ce développement de ce qu'il y a en vous, le plus parfait. Si vous posez cette question loyalement, vous aboutirez à cette conclusion. ici. Je cherche en moi-même ma propre finalité. Je serai en face d'un drame. En face du tragique. Parce que j'ai des aspirations infinies. Et je suis en face d'un bien limité. Et donc ce bien limité, qui seul existe, ne peut jamais me satisfaire, puisque j'ai des aspirations infinies. Oui, c'est très important de comprendre le tragique. Nietzsche, c'est l'éthique du tragique. Pourquoi ? Parce qu'au fond, c'est l'éthique de l'amour de lui-même. Si c'est l'éthique de l'amour de soi-même, on veut trouver en nous-mêmes notre propre finalité. Se développer le plus qu'on peut, mais on est limité. Donc je ne peux pas mettre en moi ma finalité, parce que qui dit finalité dit un bien absolu, capable de me satisfaire. Or je suis limité dans mon être, comme bien. Pas me satisfaire à moi-même. Je peux me satisfaire un moment, mais il y a très vite la limite. Et donc je suis en face d'une aspiration infinie et je suis limité. Vous allez me dire, mais c'est la même chose pour l'ami. L'ami que j'aime et que je dis être ma fin, mais c'est pas du tout ma fin, puisqu'il est limité, comme moi. Sa personne est limitée, comme moi. Donc, l'amour d'amitié, c'est très bien pour un temps, mais très vite je m'aperçois que l'ami que j'aime est aussi limité que moi. On a des similitudes dans la limite. Et donc, je ne peux pas mettre en lui mon espérance de bonheur. Il est limité. Et ça, c'est la grosse objection. Si l'ami peut être ma fin, pourquoi pas moi être ma propre fin? Puisque l'ami comme moi, nous sommes limités dans notre être. L'ami comme moi, nous pouvons mourir. Donc c'est pas un bien absolu. Alors, il faut répondre à cette objection. Elle est très forte et c'est la grande objection du monde d'aujourd'hui. Hein. C'est la grande objection d'une philosophie idéaliste, la philosophie de l'ipsolipsisme, où je me considère comme le nombril du monde. J'ai un bien plus important que n'importe quel bien qu'un ami peut me donner. Parce que d'abord, je suis plus intelligent que tous les hommes qui sont autour de moi. Donc, je ne trouve pas dans l'intelligence de mon voisin quelque chose de plus. Hein ? Et la tentation d'orgueil, la tentation de se considérer comme plus que tous les autres, et elle est forte cette tentation, très très forte. Alors, est-ce que vraiment l'expérience de l'amour d'amitié est une découverte d'une finalité, de quelque chose qui est mon bien et qui m'achève? Et si l'ami peut m'achever, pourquoi pas moi, je puis m'achever? Toutes les expériences que je fais, au bout d'un certain temps, reviennent à moi-même. Et je découvre qu'en moi, ce que Kant dit, j'ai cette subjectivité transcendantale. Découvrir la subjectivité transcendantale dans mon moi psychologique, dans mon moi humain, c'est quand même quelque chose. Et donc à ce moment-là, je relativise toute amitié. Je dis, en définitive, c'est moi. J'aime quelqu'un, c'est vrai, mais je l'aime pour moi. Et il n'y a pas d'autre amour que c'est la visite, vous avez bien. C'est authentique. Puisque c'est Saint-Bruno aujourd'hui, il faut donc un exemple de chartreuse. On monte à la chartreuse. Parce que les chartreuses, ça reste fermé, personne n'entre. Vous sonnez, vous demandez de regarder. Ah non, on n'entre pas. On n'entre pas. La chartreuse, c'est la chartreuse. Fermée. Alors, on a fait une chartreuse qu'on peut visiter. Il n'y a que les meubles. Il n'y a plus personne. Il n'y a que les meubles. Alors, vous visitez. Et vous voyez le lit. Type. Le lit en soie. Et alors, un grand Américain pose la question. Mais quand on est plus grand que le lit, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on vous coupe les pieds. Ça existe, hein, c'est pas. Je trouve ça admirable. C'est la vie commune, on vous coupe les pieds. Vous n'avez pas le droit de marcher plus vite qu'un autre et d'avoir un pas plus vaste que l'autre. De sorte que vous reconnaissez tout le temps quelqu'un qui marche. Et un petit par derrière doit faire deux pas. C'est contraire à la vie commune, ça. Vous voyez, la formalisation de la vie commune ramène à ça. Alors, à ce moment-là, c'est le tout qui finalise. Et ce n'est plus le bien de la personne. Et on voit très bien comment on peut arriver à cela quand on n'a pas découvert une fin. Alors, on se dit, je suis la fin. Comme il y a le voisin qui est aussi fin pour lui, on fait l'addition et on a le tout. Et c'est le tout qui est une finalité immanente qui remplace la vraie finalité, qui est toujours une personne. C'est très intéressant de voir ça. Les philosophies du tout. Les philosophies du tout, c'est ramener l'amour de la personne au bien commun. Et le bien commun apparaît, puisque le bien commun est toujours un tout, apparaît comme l'absolu. Donc voyez, les deux obstacles à découvrir l'amour d'amitié comme finalité. Moi, pour aimer l'autre, il faut m'aimer. Et le tout, c'est les deux obstacles. C'est les deux obstacles qu'on doit dépasser pour voir que c'est imaginatif. M'aimer moi-même comme ma propre fin, c'est un mythe. C'est imaginatif. Vous vous gonflez vous-même pour être votre propre bien. Vous ne pouvez pas être à vous-même votre propre finalité. Et le tout ne peut pas remplacer la personne. Parce que la personne est plus que le tout. Pourquoi? Parce que la personne est spirituelle. Et le bien commun ne peut pas être le spirituel à l'état pur. Le bien commun, c'est le vécu. Et si c'est le vécu de tous, ce n'est pas une source. Pourquoi je peux aimer une personne humaine? C'est qu'il y a en elle une source spirituelle, de recherche de l'intelligence, de recherche de la vérité et capacité d'aimer. Une personne ne se mesure pas. Elle a en elle-même quelque chose qui implique une recherche d'absolu. De sorte que cette personne, quand je la connais comme personne humaine, est capable de me finaliser. Son vécu, non. Mais elle est source. Vous voyez, je ne peux me finaliser à moi-même que dans mon vécu. Et mon vécu est limité. aussi source de vie, mais cette source de vie, je la saisis dans mon vécu. Tandis que l'autre, je le saisis tel qu'il est, comme source. Et il est autre que moi. Et donc, il m'apporte quelque chose qui me permet de me grandir. Et je trouve en lui source spirituelle, recherche de vérité, capacité d'aimer, quelque chose que je n'ai pas. Tandis que si je réfléchis sur moi-même, je reste toujours pourquoi? Parce que je suis moi-même celui qui mesure mon devoir. Mon devoir repose sur ma responsabilité et repose sur un amour. Et l'amour ne peut être parfaitement lui-même que quand il atteint un bien qui me finalise. Donc, voyez, là, il y a une expérience radicale au-delà de la critique. L'expérience d'un bien que j'aime et qui me finalise. S'il n'y a pas ça, il ne peut pas y avoir d'éthique, de philosophie éthique. Alors, il faut découvrir cela. Et si on ne le découvre pas, parce qu'il y a des objections, on note ces objections. Parce que là, il y a une expérience que nous devons tous faire. Et comprendre que s'il n'y a pas cette expérience, il n'y a pas d'éthique possible. Je ne peux pas faire l'éthique de mon développement personnel. Et voyez, c'est là la différence entre une éthique des valeurs et une éthique de la finalité. Il n'y a pas d'éthique des valeurs. Il y a une éthique de la finalité. Alors, laissons les hommes politiques parler de valeurs.